إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Nous sommes toujours dans le déroulement de cette bataille de Uhud et nous avions expliqué et évoqué précédemment le décès de Hamza ibn Abd al-Muttalib ainsi que celui de Mus'ab ibn Umair. Les musulmans combattirent avec acharnement jusqu'à ce que Mus'ab fut tué. Et après sa mort, ce fut Ali qui prit l'étendard. Radiallahu anhum. Les musulmans persistèrent dans l'affrontement et tuèrent de nombreux associatres, jusqu'à laisser fuir le champ de bataille sans qu'aucun ne reste. Les musulmans furent donc victorieux lors de cette première phase du combat. Comme l'indique la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, wa laqad sadaqakum Allahu wa'dahu idh tahussunahum bi'idhni. Sourate numéro 3 verset 152. Et certes, Allah a tenu sa promesse envers vous quand par sa permission vous les tuiez sans relâche. Malgré la mort de certains compagnons, le combat tourna à l'avantage des musulmans jusqu'à ce que les associatres furent vaincus et prirent la fuite avec les femmes qui étaient avec eux. Ces dernières levaient leurs vêtements pour courir et on pouvait apercevoir une partie de leurs chevilles autour desquelles se trouvaient des bracelets. Les archers sur le mont constatèrent la déroute des ennemis, laissant derrière eux leurs armées, leurs montures, leurs armures, sans compter les butins sur les morts qui jonchaient le sol. Ils dirent alors: Al-Ghanima, Al-Ghanima, le butin, vos compagnons ont pris le dessus, qu'attendez-vous donc? C'est-à-dire, qu'attendez-vous donc pour prendre votre part du butin? Alors Abdullah ibn Jubair, alors à la tête des archers, leur dit: avez-vous oublié ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam vous a ordonné? À savoir de ne pas bouger, quelle que soit l'issue des combats, quelle que soit la tournure des événements. Ils répondirent par Allah: nous irons certes vers ces gens morts et prendront notre part du butin. Ils se précipitèrent vers les biens laissés par l'ennemi en faisant abstraction des avertissements de Abdullah ibn Jubair, radiallahu anhu. Cette situation donna à Khalid ibn Walid, alors encore associâtre, l'opportunité d'assaillir les musulmans par l'arrière. Il attaqua vivement les archers qui étaient restés à leur emplacement, les encercla et les tua tous sauf quelques-uns. Il put gravir la montagne et surprendre les musulmans. De loin, les associatres qui avaient fui le champ de combat, ayant constaté les agissements de Khalid et des siens, retournèrent au combat. Ce renversement soudain provoqua une grande confusion parmi les musulmans. À ce stade des combats, les musulmans se trouvaient pris en tenaille par les associatres, puisque Khalid avait réussi à briser la protection par les archers mis en place par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et par l'armée de Quraysh qui se trouvait sur le flanc sud de la plaine de Uhud. Et donc les combats reprirent en intensité, de telle sorte qu'on n'arrivait plus à distinguer un croyant d'un associatre. La confusion était énorme, extrême, au point où certains musulmans tuèrent par erreur un compagnon, Al-Yaman, le père de Hudayfa. Et Hudayfa, non loin de là, s'écria: « Oh, serviteur d'Allah, mon père! Vous êtes en train de tuer mon père !» Et lorsqu'il fut tué, ils lui dirent « Qu'Allah vous accorde son pardon. » Ils étaient gênés de ce qu'ils avaient fait, et donc ils implorèrent le pardon d'Allah pour lui et pour son père. Pour retrouver cette narration dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, sur le numéro 4065. C'est à ce moment-là que les musulmans commençaient à subir de lourdes pertes. Ils perdaient du terrain. Et le moral des combattants n'était pas au mieux, car comme je vous le rappelle, il circulait parmi eux l'information que le messager sallallahu alayhi wa sallam avaient été tués. Cette déroute fut la conséquence de la désobéissance des archers qui avaient comme prérogative de rester sur le mont quelle que soit la tournure des événements et quelle que soit la situation des combats. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle cela dans le Coran. قال الله تبارك وتعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم Wallahu dhu fadlin ala al-mu'minin. Dans le sens des versets. Et certes Allah a tenu sa promesse envers vous quand par sa permission vous les tuiez sans relâche. Cela est la première phase du combat où les musulmans ont pris le dessus et avant qu'ils ne désobéissent. Jusqu'au moment où vous avez fléchi, où vous vous êtes disputé à propos de l'ordre donné et vous avez désobéi, après qu'il vous eut montré ce que vous aimez. Il en est parmi vous qui désirez la vie d'ici-bas. Il en est parmi vous qui désirez l'au-delà. Puis, il vous a fait reculer devant eux afin de vous éprouver. Et certes, il vous a pardonné. Et Allah est détenteur de la grâce envers les croyants. On voit bien ici que la bataille de Uhud contient deux phases plus ou moins distinctes. Une phase avant la désobéissance et une deuxième phase après la désobéissance. Et Allah tabaraka wa ta'ala parle de la première phase de manière résumée, globale, succincte. Et certes Allah a tenu sa promesse envers vous quand par sa permission vous les tuez sans relâche. Mais il va parler de la deuxième phase avec détail, comme pour le montrer l'erreur dans laquelle les musulmans ne devraient plus tomber par la suite. Jusqu'au moment où vous avez fléchi, où vous vous êtes disputé à propos de l'ordre donné et vous avez désobéi après qu'il vous eut montré ce que vous aimez, c'est-à-dire le butin de guerre ou bien la victoire, comme l'expliquent les savants. Mais on pourrait aussi comprendre ce verset en avançant et en reculant les différentes phrases comme l'ont fait certains savants. Et donc le sens serait jusqu'au moment où, lorsque vous vous êtes disputé à propos de l'ordre donné et que vous avez désobéi après qu'il vous eut montré ce que vous aimez, vous avez fléchi. Et donc, al-hazima, la déroute des musulmans, est la conséquence de al-tanazu', c'est-à-dire la dispute et les querelles internes, et aussi la conséquence de la désobéissance au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Allah tabarak wa ta'ala nous rappelle cela dans le Coran. En sourate Al-Anfal, Allah dit tabaraka wa ta'ala dans sourate numéro 8, les versets 45 et 46. Ya ayyuhalladhina amanu idha laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun wa ati'u Allaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Ô vous qui avez cru, lorsque vous rencontrez l'ennemi ou un groupe d'ennemis, soyez fermes et évoquez Allah conséquemment afin que vous gagniez la réussite, afin que vous réussissiez. Et obéissez à Allah et à son messager. Et ne vous disputez pas, car vous fléchirez et vous perdrez vos forces. Et patientez, car certes, Allah est avec les patients. On voit bien donc que le tanazur, la dispute, les disputes, les querelles internes entre les musulmans, notamment lors des combats, et aussi et surtout la désobéissance à Allah et à son messager, entraîne inexorablement al-hazima, la déroute, la défaite, la perte de la force. Cette désobéissance et ces querelles ont eu un impact presque décisif sur la tournure des événements. Beaucoup de musulmans trouvèrent le martyr. Dans cette confusion extrême et ce moment difficile pour les croyants, le messager sallallahu alayhi wa sallam réussit à disparaître de la vue des ennemis et l'on colporta qu'il avait été tué. À ce moment-là, les croyants se sont divisés en trois groupes, trois agissements différents. Un groupe de musulmans quitta le champ de bataille et s'éloigna, prenant la fuite, car ayant entendu la mort du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Un deuxième groupe qui s'assirent sans combattre, dépités, abattus moralement, tandis que d'autres continuaient de combattre l'ennemi farouchement, tout en motivant les croyants qui fuyaient ou s'asseyaient à combattre. Ces derniers combattirent jusqu'à trouver le martyr. Parmi eux se trouvait Anas ibn Nadr al-Ansari radiallahu anhu, qui n'est autre que l'oncle de Anas ibn Malik. Cet homme-là cherchait à compenser son absence de la bataille de Badr. L'imam al-Bukhari rapporte dans son sahih d'après Anas ibn Malik qui a dit « Mon oncle Anas ibn Nadr n'avait pas pris part au combat de Badr. Il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam « Ô envoyé d'Allah, je n'ai pas été présent au premier combat livré par toi aux associatres, mais si Allah me donne la possibilité d'assister à un autre combat, il verra de quoi je suis capable. Il verra comment je me comporterai. » Or, au jour de Uhud, lorsque les musulmans furent en déroute, il s'écria « Oh Allah, je m'excuse à toi de ce qu'on fait ceci. Allahumma inni a'tadiru ilayka min ma sana'a ha'ula. » Il entendait par là les musulmans qui avaient soit fui le champ de bataille, soit s'étaient arrêtés de combattre. Il dit « Wa inni abra'u ilayka mimma sana'a ha'ula. » Et je me désavoue devant toi de ce qu'on fait cela. Il entendait par là les associatres. Puis il se porta en avant, et comme Sa'd ibn Mu'adh se présentait à lui, il lui dit « Le paradis, ô Sa'd ibn Mu'adh, par le seigneur de mon père, An-Nadr, je sens son parfum s'exhalant de Uhud. » Le paradis, ô Sa'd ibn Mu'adh, par le seigneur de mon père, An-Nadr, je sens son parfum s'exhalant de Uhud. » Sa'd a dit plus tard au prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Je n'ai pu, ô envoyé d'Allah, faire ce qu'il a fait. » C'est-à-dire que je n'étais pas à la hauteur du sacrifice et de l'abnégation dont a fait preuve cet homme. Anas ajoute, « Nous trouvâmes son corps percé de plus de 80 blessures, coups de sabre, de lance, de flèches. Nous le trouvâmes tué et mutilé par les associatres. Personne ne put le reconnaître, sauf sa sœur, Rubayya. Et elle le reconnut par le bout de ses doigts. Nous pensions, ou nous croyons que ce verset, il est parmi les croyants de vrais hommes qui respectent l'engagement qu'ils ont pris avec Allah subhanahu wa ta'ala. Certains parmi eux sont morts, d'autres attendent encore leur terme et ils n'ont point changé. Ils sont restés fermes sur l'engagement qu'ils ont pris vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, à savoir défendre le prophète jusqu'à y trouver la mort. Donc Anas a dit, nous pensions et nous croyons que ce verset avait été révélé pour lui, et c'est pareil. Cette narration a été rapportée par l'imam al-Bukhari sous le numéro 1274. Nous avions cité dans le cours précédent que ce verset aussi s'applique à Mus'ab ibn Umair, sans aucun doute, et à tous ceux qui sont morts durant cette bataille et qui ont combattu valeureusement. Ibn Ishaq, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, rapporte par une chaîne de transmission qui remonte à Abdurrahman ibn Rafi' des Bani Adi ibn Najjar, qui a dit « Anas ibn Nadr, l'oncle paternel d'Anas ibn Malik, alla trouver Omar ibn Khattab et Talha ibn Ubaidillah, qui étaient assis avec quelques hommes, émigrés et ansars. Ils étaient abattus. Alors Anas ibn Nadr leur dit « Pourquoi êtes-vous assis ?» Ils répondirent « L'envoyé d'Allah a été tué. » Alors il leur dit « Que ferez-vous de la vie après lui ? Levez-vous et mourrez en défendant ceux pour lesquels l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam mourut. » Puis il se dirigea vers l'ennemi et il combattit jusqu'à ce qu'il fût tué en martyr. Radiallahu anhu. D'ailleurs, Anas ibn Malik, Anas, fut nommé d'après le nom de son oncle, Anas ibn Nadr. Ibn Ishaq a dit, Humayd al-Tawil, qui est un tabi'i, a dit sur l'autorité de Anas ibn Malik, qui lui a rapporté que celui-ci avait dit, nous avons trouvé ce jour-là sur le corps de Anas ibn Nadr les traces de 70 coups. Il ne fut reconnu que par sa sœur, elle le reconnut grâce à ses doigts. Revenons maintenant à ceux qui avaient pris la fuite parmi les croyants. Lorsqu'ils prirent la fuite, ils n'écoutaient plus personne. Même pas l'appel du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui les appelait et qui leur ordonnait de revenir au combat et de rester ferme à combattre à ses côtés. Allah tabaraka wa ta'ala nous parle de cet événement aussi. قال الله جل وعلا إذ تصعدون ولا تلقون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. Rappelez-vous, quand vous fuyez sans vous retourner vers personne, cependant que derrière vous le messager vous appelait, alors il vous infligea angoisse sur angoisse, afin que vous n'ayez pas de chagrin et de tristesse pour ce qui vous a échappé, ni pour les revers que vous avez subis. Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Sourate numéro 3, verset 153. L'imam Ibn al-Jawzi, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, a dit dans son livre Zad al-Masir, une des causes de la fuite de certains croyants était la fausse rumeur de la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont pas fui au combat par peur de l'ennemi, ou par un manque de foi. Mais ils ont fui au combat, car ils ont entendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait été tué. Et donc, dans la panique, ils ont préféré quitter les combats. Qu'en est-il de cette rumeur que le prophète a été tué, alayhi wa sallam? Bien sûr, c'est une rumeur qui était fausse. Cette rumeur tendait à déstabiliser le moral des croyants. Dans un premier temps, Ibn Qami'a, celui qui avait tué Mus'ab ibn Umair, pensait avoir tué le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car Mus'ab ressemblait au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur certains aspects. Et donc lorsqu'il tua Mus'ab ibn Umair, il dit « J'ai tué Mohammed ». Et c'est ainsi que cette rumeur commença à se répandre parmi les combattants, des deux côtés. Puis certains, parmi les mushrikines, ont alimenté cette rumeur afin d'affaiblir et de saper le moral des croyants. Ce fut Ka'b ibn Malik, radiallahu anhu, qui fut le premier à apprendre que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, était encore vivant, après la panique qui avait touché les musulmans. Il reconnut le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, grâce à ses yeux, car il avait dit, « Je reconnus les deux yeux du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, briller de dessous le casque de sa tête. » Donc le prophète portait un casque, ce qu'on appelle en arabe « mirfar », un casque qui recouvre toute la tête sauf les yeux. Et Ka'b ibn Malik avait reconnu les yeux du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, briller de dessous le casque de sa tête. Ka'b a voulu crier la bonne nouvelle aux croyants encore présents sur le champ de bataille. Mais le messager, sallallahu alayhi wa sallam, lui ordonna de garder le silence afin de ne pas alerter les associatres. Ce récit a été rapporté par Ibn Ishaq avec une chaîne de transmission qui est bonne. Les combats continuèrent malgré tout et certains ennemis tentèrent d'atteindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le messager sallallahu alayhi wa sallam était entouré à ce moment-là de 7 hommes parmi les Ansar et 2 croyants parmi les émigrés Quraishites, les Muhajirin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit alors « Quel est celui d'entre vous qui pourra les repousser? Il aura alors le paradis ou il sera en ma compagnie au paradis ?» Alors chacun se dressait pour le protéger, combattait jusqu'à mourir, puis un autre prenait sa place. Les 7 Ansar trouvèrent le martyr en défendant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il ne restait que les 2 émigrés. Le messager sallallahu alayhi wa sallam leur dit alors, « Nous ne pourrons pas rivaliser avec nos compagnons. »« Ma ansafna ashabana » »« Nous ne pourrons pas rivaliser avec nos compagnons. » Cette narration a été rapportée par l'imam muslim sous le numéro 1789. Celle-ci nous montre la dévotion, le sacrifice, le mérite des Ansar. Parmi ceux qui combattaient valeureusement afin de protéger le messager, sallallahu alayhi wa sallam, il y avait Talha ibn Ubaidillah, des Bani Taïm, un proche en lignée de Abu Bakr, un des tout premiers croyants et un des 10 élus du paradis qu'avait cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam au début de la révélation. Talha ibn Ubaidillah. Il a combattu avec une bravoure extraordinaire. Il recevait des flèches et des coups pour protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au point que sa main fut paralysée en bloquant les projectiles venant vers lui. Comme le rapporte l'imam al-Bukhari sur le numéro 3764. Le prophète a aussi dit, le concernant, celui qui veut regarder un martyr vivant, qu'il regarde Talha. Seulement cette narration est faible. Il y avait aussi parmi les hommes autour du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui n'avaient de mission que de le protéger ou qui n'avaient d'objectif que de le protéger, Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu. Le messager sallallahu alayhi wa sallam lui tendait des flèches et lui disait « Ya Sa'd, irmi fidaka abi wa ummi. Irmi fidaka abi wa ummi. Décoche tes flèches, ô Sa'd, que mon père et ma mère te servent de rançon. » C'est une parole énorme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dit à quiconque si ce n'est à Sa'd. « Que mon père et ma mère te servent de rançon. Que mon père et ma mère te servent de rançon. » Jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a dit cette phrase à un autre compagnon, même pas à Abu Bakr. Et ça c'est une exclusivité de Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu. Lui aussi fait partie du tout premier croyant et un des 10 élus du paradis. Abu Talha al-Ansari faisait partie des meilleurs archers. Le messager sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'il voyait un carquois de flèches, disait « Donnez ces flèches à Abu Talha ». Et à chaque fois que le messager sallallahu alayhi wa sallam se trouvait à découvert et devenait potentiellement une cible, il disait « Que mon père et ma mère te servent de rançon. Ne t'expose pas au messager d'Allah. Il se peut qu'une flèche perdue ennemie t'atteigne. Mon coup sera au devant du tien. Nahri duna nahrik. C'est-à-dire, je serai devant toi pour subir tout projectile qui devrait atteindre. » Le messager sallallahu alayhi wa sallam disait de Abi Talha, La sautu Abi Talhata fil jaysh ashaddu ala al-mushrikin min fi'ah. La voix d'Abi Talha au sein des combattants est plus difficile pour les associatres qu'un groupe de combattants. Et dans une autre version, qu'un groupe de 40 soldats. Radiallahu tabaraka wa ta'ala anhu. Parmi ceux aussi qui ont fait preuve de bravoure, de courage, d'abnégation, Abu Dujana, Simak ibn Kharash, nous avions déjà parlé de lui. Il se tenait également devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme un bouclier vivant. Il courbait son dos devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il recevait toutes les flèches qui transperçaient son dos. On leur dit Allah. Voici donc quelques exemples de combats héroïques. On t'a fait preuve les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour lever haut l'étendard de cette grande religion, la grande religion de l'islam. Nous continuerons à parler des actes héroïques de certains compagnons durant cette bataille. Nas'Allah tabaraka wa ta'ala an yuwaffiqana jami'an lima yuhibbuhu wa yardah kama nas'aluhu tabaraka wa ta'ala al-huda wa at-tuqa wa al-afafa wa al-ghina wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته